Bonjour et merci de me recevoir. Aujourd'hui, il va être question du problème de la coordination dans les nages alternées, donc crawl et dos crawlé. Et on va, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, faire deux parties. Une partie de connaissances théoriques, qui normalement devrait durer à peu près 1 heure. Et une deuxième partie sur application, intervention et toutes les questions que vous aurez à poser seront les bienvenues, mais à ce moment-là. Le plan de l'organisation est en 7 parties. Pour la première partie de connaissances théoriques, hein, il y aura une deuxième partie, comme je l'ai dit. L'introduction, la technique du crawl, la coordination en crawl, les 3 types de coordination en crawl qui sont identifiés, comment on évalue la coordination des bras en crawl. Après, rapidement, la coordination en dos, il y a beaucoup de choses en commun, je ne resterai pas très longtemps, mais il y a des spécificités et comment a été évaluée la coordination en dos. Je ne rentrerai pas dans les détails de définition des concepts, etc., de coordination ou synchronisation ou autre, mais dans le cadre des questions, dans la deuxième partie, ce sera le bienvenu. La première des choses, c'est que ma légitimité par rapport au traitement de cette thématique et d'avoir été pendant 30 ans entraîneur, même si ça fait bien longtemps que je ne le suis plus, et d'avoir eu la chance d'emmener les équipes de France universitaires de 85 à 2005 dans les grandes compétitions mondiales, ici à Pékin avec l'équipe de France en 2001 par exemple. Deuxièmement, d'être un référent au niveau international et national sur l'évaluation en natation et par ailleurs, évidemment, un praticien de la connaissance et de la logique, tout simplement, de l'analyse scientifique. Ce qui est, comment dire, le plus reconnu au niveau international, c'est cet article qui date de 2000, même si c'est marqué 99 ici, qui est la création d'un outil pour évaluer la coordination. Ça n'existait pas antérieurement et aujourd'hui, cet outil est énormément utilisé dans le monde entier pour justement étudier la coordination. On verra que, évidemment, j'ai fait des outils dans les 4 nages, mais là, aujourd'hui, il est question de la problématique du crawl. Dans le cadre des évaluations, évidemment, il y a énormément de paramètres. Et si l'occasion m'est donnée de présenter justement l'évaluation technique en natation et les différents paramètres, par exemple ici des facteurs anthropométriques, des facteurs d'équilibre ou de flottabilité ou énergétique ou autre, eh bien, ce sera avec grand plaisir. L'objectif étant, comme je l'ai dit, de diffuser la connaissance. Malheureusement, nos métiers à nous d'universitaires fait que nous sommes évalués exclusivement sur les publications internationales, ce qui veut dire que, je le dis souvent, ces ouvrages qui datent pour certains d'entre eux sont ce qu'on appelle les pièces jaunes par rapport à des billets que sont les publications internationales. Voilà, donc ceci étant, moi je suis très très attaché à la diffusion des connaissances en langue française. C'est pour ça que ce dernier ouvrage a été publié. Pour revenir à la problématique de la coordination, j'aborderai très peu la coordination bras-jambes, même évidemment si ça fait partie du sujet, mais je resterai beaucoup plus sur la coordination bras-bras, parce que les bras sont la principale source de propulsion. Certains se permettent de faire des quantifications en disant 80% de la propulsion, c'est les bras, 20% les jambes ou des choses comme ça, ce qui est absolument impossible à évaluer et personne n'est capable de déterminer quelle est la part des bras, la part des jambes. Ce qui est sûr, c'est que dans la problématique générale, les bras sont la principale source de propulsion qui peut aller jusqu'à 99%, mais beaucoup moins, évidemment, selon le genre garçon-fille ou selon la distance. et évidemment le niveau de performance et les caractéristiques anthropométriques. Alors pour revenir à la problématique du crawl, si on fait quelques rappels techniques, je ne vais pas revenir très longuement sur les rappels techniques, mais on peut considérer que les différents critères qui permettent de définir les aspects techniques sont le règlement et les contraintes environnementales. Contraintes environnementales, on ne nage pas pareil dans un bassin de 25, un bassin de 50, en découvert, en couvert, etc. Donc ça, c'est relativement limité. Le règlement, vous savez, vous vous souvenez que le règlement en crawl, le règlement de nage libre, le mot crawl n'existe pas dans le règlement FINA. Le crawl est une solution adoptée en nage libre et les règles de la nage libre sont très limitées. Il y a évidemment la limite maintenant des 15 mètres où on n'a pas le droit de dépasser, on doit couper la surface de l'eau au bout de 15 mètres, donc ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait dans la problématique d'un règlement libre, donc c'est plus tout à fait de la nage libre, et évidemment il faut toucher le mur, il faut respecter les ordres du starter, etc. Donc il y a quelques contraintes, mais le crawl est une solution technique au service de la nage libre. L'équilibre du corps et les résistances à l'avancement, la vitesse est élevée et plus les résistances à l'avancement sont freinatrices. Je rappelle que même si la formule date un peu du XVIIe siècle et que aujourd'hui on l'utilise encore R égale KSV2, je me positionne moi pour combattre cette définition, mais elle est quand même pas très loin de la réalité. Et donc plus la vitesse est élevée et plus les résistances freinatrices sont importantes, mais c'est vrai aussi pour les résistances propulsives, puisque par définition, la création d'un appui, c'est une forme de résistance propulsive et qui est aussi soumise au carré de la vitesse. Donc l'équilibre, évidemment, est horizontal. Les caractéristiques spatiales des mouvements de bras, on va l'étudier assez en détail juste dans la diapo suivante. Les caractéristiques temporelles, on abordera cette problématique. Je rappelle que l'analyse d'un mouvement se fait toujours sur des modalités spatio-temporelles, c'est-à-dire l'espace et le temps, et évidemment les accélérations, le rythme, les temps morts, etc. sont des données temporelles, mais le trajet du mouvement dans l'espace en particulier, ou la position de la main, sont des aspects spatiaux. Les coordinations des mouvements de bras, c'est évidemment le thème de la séance d'aujourd'hui. L'organisation respiratoire, que j'aborderai quasiment pas, sauf s'il y a des questions, parce que évidemment il y a des relations entre la coordination et la respiration. Quand on respire que d'un côté ou des deux côtés, évidemment, on le verra d'ailleurs sur les vidéos qui vont suivre, il y a des dissymétries qui sont liées à des respirations unilatérales ou bilatérales. Les prises d'informations, évidemment, le nageur de crawl avec ses lunettes aujourd'hui, ce qui n'a pas été toujours le cas, les Westmuller et compagnie n'avaient pas de lunettes à cette époque-là. Et donc, les prises d'informations sont prises sous l'eau, ne serait-ce que pour repérer la ligne de fond ou la ligne de virage, etc. Et ces informations, aussi visuelles, mais aussi tactiles et kinesthésiques, sont extrêmement importantes dans le cadre de la technique de nage. La forme, le rythme et la coordination des mouvements de jambes, le battement, évidemment, et on verra quelques comportements des non-experts, et on verra bien que le battement de l'élite et le battement du non-expert, c'est pas tout à fait le même, et la coordination générale de la nage. Certains parlent de synchronisation. La synchronisation, c'est la relation synchrone, c'est-à-dire en même temps d'événements. Donc une forme de coordination peut être considérée aussi comme une synchronisation, mais donc moi je préfère utiliser le concept de coordination, j'y reviendrai. S'il y a des questions, vous pouvez noter et au fur et à mesure. Donc dans ce cadre-là, un schéma relativement simple peut faire apparaître tout simplement la problématique du trajet. Or, qu'est-ce qu'on peut voir quand on regarde de face en vue sous-marine ou de profil? Eh bien, on va s'apercevoir que la main n'a jamais un trajet linéaire, alors que encore aujourd'hui un certain nombre d'auteurs donc d'ouvrages disent qu'il faut mettre la main perpendiculaire au plan de l'avancement et tirer en ligne droite, ce qui est évidemment une erreur fondamentale pour plein de raisons. C'est que là, on est dans la logique soit de la roue à aube, soit tout simplement de la rame. Évidemment, la main du nageur n'est pas ni une rame ni une hélice, mais elle joue évidemment avec les théories actuelles du vortex, qui est beaucoup plus complexe en matière de problématiques. Heureusement, le nageur, lui, il s'en fiche. Je rappelle que le nageur de haut niveau, eh bien, il va essayer des solutions. Il va mettre sa main dans un certain nombre de modalités et à un moment donné, quand il se rend compte qu'il a gagné un cycle de bras et qu'il a gagné une seconde en faisant plutôt ce mouvement que celui-là, eh bien, il va garder la bonne réponse, il va jeter la mauvaise réponse. Et en fin de compte, si on l'interroge et si on interroge un expert sur sa capacité à verbaliser ce qu'il fait, eh bien, on s'aperçoit que vous demandez à n'importe quel nageur comment tu mets ta main quand tu nages, etc. Il est absolument incapable de le faire, sauf si il est évidemment, comme vous, étudiant en sciences du sport avec cette problématique. Pour le dire d'une manière simple, quand on est dans un véhicule, il y a le conducteur, il y a des très bons conducteurs qui connaissent absolument rien sous le capot de la voiture, mais qui savent extrêmement bien utiliser le volant, la pédale de l'accélérateur, le frein, etc., etc., et qui ne savent absolument pas comment ça marche. Par contre, un mécanicien, eh bien, lui, il est absolument très, très informé de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et la relation qu'il y a entre la rotation du volant et les roues. Mais ça, ça n'est pas absolument utile. Sauf pour une population comme la vôtre, qui est en même temps un conducteur et en même temps un mécanicien, et donc c'est mon rôle aussi de transmettre cette problématique là. Donc pour revenir à la problématique tout simplement du trajet de la main, donc on voit que la main elle va avoir des trajets dans l'ensemble des plans de l'espace et qu'elle n'est jamais en ligne droite, au sens perpendiculaire au plan de l'avancement. Et évidemment, tout ça, ça s'explique, mais ça ferait l'objet d'un cours de mécanique ou de biomécanique un petit peu plus poussé que je ne réaliserai pas aujourd'hui. Ceci étant, là, il y a une erreur. Une erreur, et encore une fois, je signe ce que j'écris. La preuve, c'est que j'ai mis systématiquement des références aux images que j'utilise. Ces illustrations sont une erreur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la main du nageur ne se déplace pas de l'avant vers l'arrière, mais c'est plutôt la main du nageur qui est relativement fixe, et c'est le nageur qui se déplace par rapport au point d'appui de sa main. Et donc, la représentation que vous devez avoir, ça n'est pas le trajet de la main, mais c'est le trajet du corps par rapport à la main. Plus l'individu est débutant, on va voir ça tout à l'heure, et plus on va voir que la main va reculer justement, et que entre le moment où la main est rentrée dans l'eau et le moment où elle va sortir, eh bien, l'individu va se déplacer très peu. Hein, on voit des distances par cycle qui peuvent être quelque chose comme 50 cm, alors que l'expert, sur un cycle de nage, il peut être à plus de 2 mètres de distance par cycle, ce qui veut dire qu'entre le moment où il a ancré sa main et le moment où il s'est déplacé, eh bien, il s'est déplacé de 2 mètres, ce qui veut bien dire que c'est la position de la main qui est la référence et le corps du nageur, lui, qui est donc dans cette problématique. Alors, justement, même si les images que je vais vous présenter sont de relativement mauvaise qualité, pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure sur des images un petit peu meilleures ou des arrêts sur image, mais pour l'instant, je vous présente quelques observations vidéo d'une manière relativement simple. Alors, la première, il a été le capitaine de l'équipe de France, champion olympique, membre des relais respectifs, champion du monde et champion olympique, mais quand il était jeune, il était ici, et donc on a eu beaucoup l'occasion de travailler avec lui. J'en parlerai et je montrerai même des vidéos où il était un peu plus jeune que ça, dans le cadre de ses évaluations. Alors ces images sont compressées, puisque nous on travaille évidemment avec ces images, je vous présenterai la méthodologie après. Les images sont compressées, donc ici ça ne rend pas très bien, mais évidemment les images qu'on utilise nous sont de nettement meilleure qualité. Alors on le reverra dans la méthodologie que je vais vous présenter après. Donc l'idée c'est de faire un 25 mètres, filmé de face, de profil, en vue sous-marine et en vue aérienne, et ça correspond donc à ces images-là, à vitesse réelle. On mixte deux caméras, une qui est dessus, une qui est dessous. Là, on n'a pas fait d'effort, je dirais, de présentation de l'image. Elle est brute, hein, donc avec la vue des deux caméras, en vue de profil ou et de face. La vue de profil sous-marine, c'est la même que celle que vous venez de voir. Et donc, on a quatre images. Et ces images, on les associe en vue aérienne, en vue sous-marine, de face et de profil, comme on veut. Et la preuve, c'est que vous venez de le voir dans la configuration précédente, en vue aérienne et sous-marine. Et là, on va le voir en vue de face et de profil en vue sous-marine. Donc si on étudie les retours, évidemment, on va s'intéresser plus aux vues aériennes. Quand on étudie la problématique de la nage, eh bien, on s'intéresse évidemment aux vues sous-marines. Là, vous avez donc un ralenti. Et si vous regardez attentivement la position de la main par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous allez voir que, par exemple, ici, il y a des éléments caractéristiques du crawl que sont les épaules sont plates extrêmement rarement, uniquement au changement d'orientation des mains. C'est-à-dire, ici, on est sur la poussée et vous voyez, regardez les épaules, par exemple, où on a un dégagé de l'épaule à la fin de la poussée, avec un roulis des épaules extrêmement important, ce que, évidemment, le débutant n'est pas capable de faire. Et ce roulis va avoir aussi comme intérêt d'engager l'épaule propulsive sur une profondeur relativement importante. On calcule à 70 cm la profondeur idéale de l'appui propulsif. Et donc, vous voyez, alternativement, la correspondance des mouvements de bras, bras droit, bras gauche, avec une tête extrêmement bien fixée et un battement sitant, et donc cette correspondance. Alors, pour pouvoir faire l'observation technique, on va le faire aussi à partir d'images qui ont été filmées tout à fait dans d'autres conditions, donc à l'époque où j'étais à Montpellier, dans ce bassin extraordinaire d'Antigone, où les hublots permettent des prises de vue que je vais exploiter juste après, donc dans des conditions tout à fait différentes, qui permettent tout simplement d'étudier. Alors aujourd'hui, les GoPro ou des outils évidemment beaucoup plus sophistiqués nous permettent d'avoir des images de meilleure qualité, mais pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser ces images-là. Alors, comme je l'ai décrit tout à l'heure, la main dans l'espace, à part la phase aérienne de retour, puisqu'ici on a intégré les phases aériennes de retour, eh bien, ne sont jamais en ligne droite. Et si on regarde attentivement, eh bien, on va pouvoir décrire des phases. C'est quoi des phases? Eh bien, c'est des moments clés dans lesquels il y a des réorientations ou des changements, tout simplement, d'orientation de la main dans le cadre du crawl. On verra éventuellement que pour la brasse, le mouvement de jambe est aussi important, voire plus important que le mouvement de bras, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors, pour revenir donc à la problématique, tout simplement, de l'analyse et des différents critères d'évaluation technique, eh bien, on va éventuellement rappeler les paramètres qui influencent la technique, le règlement, les contraintes environnementales, l'analyse de l'épreuve, est-ce que c'est du 1500, est-ce que c'est du 100 mètres, etc., etc. L'équilibre du corps, les résistances à l'avancement, avec des critères qui sont déterminés ici, l'organisation respiratoire, les prises d'information, les caractéristiques spatiales, les caractéristiques temporelles. Et donc, à chacun des éléments, on a des critères qui permettent tout simplement de déterminer les éléments qui peuvent être mis en œuvre pour pouvoir faire une analyse technique proprement dite. Comme ici, l'objectif, c'est de parler de coordination, eh bien, je vais rester sur la problématique des différentes phases. Alors, ces différentes phases, maintenant je reprends les images que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, peuvent être considérées comme à minima de 8, On peut en mettre beaucoup plus, mais vous allez voir tout à l'heure que la durée d'un cycle est tellement courte qu'on va sans doute remodifier cette problématique. Alors, si vous regardez les numéros qui sont présentés ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par exemple, ici on est sur les mêmes phases, eh bien on va s'apercevoir que quand on regarde sur les trois plans de l'espace, eh bien la phase 1, elle va durer ici beaucoup plus longtemps que là. Pourquoi ? Eh bien parce que la main va avoir un trajet de l'entrée de la main jusqu'à la phase de prise d'appui. Je préfère le concept anglais que prise d'appui. Prise d'appui, ça veut tout dire. En anglais, c'est catch. Et catch, ça veut dire évidemment ce que vous savez, c'est-à-dire attraper. Eh bien, l'objectif de prise d'appui, c'est pas clair, alors que attraper, c'est-à-dire on va chercher une masse d'eau inerte, le plus possible inerte, alors que le débutant, lui, il va baisser la main tout simplement pour taper dans l'eau au lieu justement d'aller faire une prise d'appui. Je vous montrerai tout à l'heure des images d'Alain Bernard où une des caractéristiques de sa nage, c'est vraiment la prise d'appui, où là, c'est difficile de faire mieux dans ce cadre-là. Donc la première phase, la phase d'allongement, qui est donc l'objectif, c'est cette fameuse prise d'appui. La phase de glisse. Alors la phase de glisse dépend de la vitesse de nage et dépend des caractéristiques de l'individu. En d'autres termes, ça sert à quoi immédiatement de prendre un appui si je n'ai pas besoin de créer des appuis importants. Je rappelle que quand on marche ou quand on court, la durée des appuis n'est pas du tout la même. Et la phase, tout simplement, de dérouler du pied au sol n'est pas du tout la même quand on marche ou quand on court. Et bien, pour la natation, c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Et dans cette problématique-là, on a bien donc une phase de glisse qui existe ou pas, selon les individus, on verra ça. Ensuite, la première godille. Pourquoi on parle de godille ? Eh bien, parce qu'on peut considérer que chez le nageur expert, il y a vraiment une première phase, une deuxième phase et une troisième phase. Et comme on m'a dit de rester assis, je ne ferai pas de démonstration ici, mais l'idée, c'est de montrer les changements d'orientation sur les trois plans de l'espace. Eh bien, dans ces conditions-là, eh bien, vous allez voir que les différentes phases, donc qui va de 2 à 3, donc qui est entre la phase de glisse et la première godille, la deuxième godille de 3 à 4, etc., etc., la troisième godille, la phase de dégager, cette phase de dégager est extrêmement courte en crawl, c'est-à-dire une fois que j'ai fini ma propulsion et que ma main est encore dans l'eau, je ne suis plus propulsif et pour autant ma main est toujours dans l'eau. C'est ça, cette phase de dégager. Ensuite, le retour. Alors ici, on ne le voit pas, mais le retour est composé, on peut le composer de deux parties, de la sortie de la main jusqu'au passage de la main à l'épaule et du passage de l'épaule jusqu'à l'entrée de la main du cycle suivant. Eh bien, ces différentes phases, vous voyez ici 8, peuvent être donc analysées, ces 8 phases, allongement, glisse, première godille, deuxième godille, troisième godille, dégager, premier demi-retour, deuxième demi-retour. Eh bien, ici, on peut avoir des repères. C'est quoi un repère ? Eh bien, pour le dire d'une manière simple, quand vous avez un grillage et que le grillage est organisé à partir de deux piquets, eh bien, le piquet, c'est donc le repère, et la phase, c'est ce qu'il y a entre deux repères, et donc l'espace qui est celui du grillage, par exemple. On le sait aussi sur les ondes de donc cardiaques, QRST, etc., etc. Donc chaque fois qu'il y a des logiques, il y a un point d'entrée, un point de sortie. Lorsque c'est cyclique, l'avantage, c'est que la dernière phase est la même que la première phase et la dernière phase sont les mêmes, puisque on est dans un grillage fermé, c'est-à-dire qu'il y a autant de piquets qu'il y a de grillages, puisque à un moment donné c'est fermé. Eh bien là, on est dans cette problématique, ça veut dire que ici, on va regarder les différents points de repère. On a un problème de quantification qui est le problème de la durée du cycle. Un cycle de crawl à vitesse élevée et d'une seconde. Ça veut dire que si on distingue 8 phases en une seconde, eh bien la durée de chacune des phases est tellement courte qu'on ferait des erreurs d'interprétation, parce que nous n'avons pas des caméras à haute fréquence, mais on a des caméras qui donnent des informations donc à un cinquantième de seconde. C'est déjà assez précis, mais ce n'est pas assez précis pour pouvoir distinguer 8 phases. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait dans notre méthodologie? Eh bien, on a considéré que la phase d'allongement et la phase de glisse, c'est ce qu'on a appelé la recherche d'appui. Les trois godilles ont été séparées en deux parties. Une première partie du début de la propulsion jusqu'au passage de la main à l'épaule, et du passage de l'épaule jusqu'à la sortie. Donc, la première phase de traction correspond à une godille et demie jusqu'au passage de la main à l'épaule. Et la deuxième phase de poussée, alors pourquoi traction poussée? Eh bien, parce que la main est jusqu'à l'épaule et après l'épaule. En réalité, puisque vous êtes ici des mécaniciens des sciences du sport, c'est une petite erreur terminologique. Pourquoi? Parce que là, en réalité, la poussée ne serait que la phase après le centre de gravité. En d'autres termes, quand je suis en train de réaliser un mouvement ici, je suis toujours en traction. Pourquoi? Parce que je tracte mon corps qui est déplacé par rapport au centre de gravité. Et pourtant, à partir du moment où la main a dépassé le plan de l'épaule, je vais considérer ça comme une poussée, donc dans le cadre de cet outil. Et ici, la phase de dégager, qui est tellement négligeable entre la fin de la propulsion et la sortie de la main, eh bien cette phase dure tellement peu de centièmes de seconde qu'on l'a intégrée à la phase de poussée, ce qui veut dire que la poussée est un peu surestimée par rapport à la réalité. Et évidemment, le retour, les deux demi-retours donc sont additionnés de la sortie de la main jusqu'à l'entrée de la main du cycle suivant, ce qui veut dire que un cycle de crawl sur un bras peut être décrit en 4 phases. Une phase de prise d'appui, une phase de traction, une phase de poussée, une phase de retour. Alors, dans ce cadre-là, quels sont les éléments et les points de repère qu'on peut prendre lorsqu'on va étudier tout simplement cette problématique? Eh bien, on peut décrire ces différentes phases comme étant représentées graphiquement par ce schéma qui est la prise d'appui que j'ai représentée horizontale. Pourquoi? Eh bien, parce que la main, quelque part, elle reste à l'horizontale. La traction qui est un demi-cercle, enfin une demi-courbe, pardon, qui part du début de la propulsion jusqu'au passage à l'épaule, considérons ici le passage à l'épaule, avec le temps qui passe, puis la poussée du passage de l'épaule jusque à la sortie de la main de l'eau, et enfin le retour représenté par un demi-cercle ici, ou une courbe, qui est aérienne par rapport au niveau de l'eau. Voilà, ça c'est une représentation graphique. Alors cette représentation graphique, quand on va calculer ou étudier, eh bien on va mettre en relation la phase, les différentes phases, entre l'entrée de la main jusqu'à la prise d'appui. Eh bien de l'entrée de la main, on va noter le repère jusqu'à la prise d'appui, et cette phase est la phase donc de prise d'appui. À partir du début de la propulsion jusqu'au passage de la main à l'épaule, eh bien, on va être dans la phase B, qui est la phase de traction. Du passage de l'épaule jusqu'à la sortie de la main, eh bien, on va être dans la phase C, qui est la phase de poussée. Et de la sortie de la main jusqu'à l'entrée du cycle suivant, vous voyez que c'est cyclique, eh bien, on est dans la problématique du retour. Eh bien, ça, on est capable de le mesurer pour l'instant. Avant de le mesurer et de faire l'évaluation, je vais vous présenter tout simplement des images dans lesquelles on peut étudier cet élément. Alors, quand on regarde, la prise d'appui, c'est une phase sous-marine qui est non propulsive. Donc il ne faut jamais mettre en rapport les phases sous-marines avec les phases aériennes pour une raison simple, c'est qu'on a une phase aérienne qui est le retour, et évidemment qui n'est pas propulsif, mais on a une phase de prise d'appui qui n'est pas propulsive et pourtant qui est sous-marine. Alors, c'est beaucoup plus simple à comprendre avec le papillon, puisque les deux bras font la même chose en même temps, sauf que la relation qu'on abordera la semaine prochaine sur la relation bras-jambe est beaucoup plus importante, évidemment, dans le cadre du papillon. Mais dans le cas du papillon, entrée des mains, prise d'appui, traction, poussée et retour, donc c'est beaucoup plus simple. Là, on a affaire à un bras, et on va étudier un bras à la fois pour mettre les deux bras en relation l'un par rapport à l'autre. Alors, dans ce cas-là, vous voyez ici la représentation des différents points clés. Le point clé, c'est l'entrée, c'est le début de la propulsion, c'est le passage à l'épaule, c'est la sortie, c'est le retour, et puis de nouveau l'entrée, et ainsi de suite, qui détermine les quatre phases, prise d'appui, traction, poussée, retour. Alors ça, il faut que vous compreniez bien la délimitation de ces différentes phases, pour comprendre toute la suite, évidemment, du raisonnement sur la relation entre bras droit et bras gauche, puisque c'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui sur la coordination des bras en crawl. Donc, quatre phases sur le bras droit, mais évidemment, quatre phases sur le bras gauche. La relation qu'il y a entre ce que fait le bras droit et ce que fait le bras gauche, dans le modèle que je vais vous présenter après, eh bien, on étudie au moins 3 cycles, des fois même on étudie tout le 25 mètres pour regarder, pour quantifier la durée de la prise d'appui, la durée de la traction, la durée de la poussée, la durée du retour, et on quantifie en mesurant un cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle, etc. du bras droit. Comme à l'image, on a des repères temporels, c'est-à-dire un timer qui incruste le temps. Sur l'image, eh bien, ça nous permet de quantifier le nombre de centièmes de seconde que dure une phase par rapport à une autre. Je rappelle que toutes les questions, j'y reviendrai sur certaines diapos tout à l'heure. Alors, pour le dire d'une manière assez simple, vous savez comme moi qu'on quantifie, par exemple, d'une manière très différente, et d'ailleurs c'est très bien réglementé, pour en athlétisme, ce qui est de la marche et ce qui est de la course. Et on sait que les problématiques, tout simplement, de la définition de la marche, c'est qu'il y a toujours au moins un appui au sol, à la différence de la course où il y a un temps d'envol, eh bien, on peut différencier la marche et la course avec des allures, c'est-à-dire il y a des marcheurs qui marchent très vite et des coureurs qui courent très doucement, mais pour autant, on a une relation des deux. Chez le cheval, tout le monde connaît au moins les trois allures, le pas, le trot et le galop. Et effectivement, la coordination des quatre membres du cheval n'est pas du tout la même selon qu'il est en situation de marche, de trotter ou de galoper. Eh bien, dans le cadre de la coordination en crawl, on pourrait considérer qu'il y a trois allures. Celles qui correspondent à l'opposition de phase, qui est un concept théorique, parce que dans la réalité, c'est extrêmement compliqué d'être exactement en opposition de phase. C'est le rattraper, et j'aborderai quand même d'une manière assez complexe cette problématique du rattraper, qui peut être absolument inadaptée ou absolument adaptée. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Et évidemment, la superposition. Et je pense que les images que je vais vous présenter ou les vidéos que je vais vous présenter vous permettront de bien comprendre la différenciation de ces trois problématiques. Alors si je reprends mon modèle, le modèle c'est deux cycles, par exemple ici du bras gauche, donc traction, prise d'appui, traction, poussée, retour, prise d'appui, traction, poussée, retour, ça c'est égal à ça, mais on le représente graphiquement à partir du temps qui passe. Et on regarde ce que fait le bras droit pendant les différentes phases du bras gauche. Eh bien, l'opposition de phase, c'est tout simplement qu'au temps exact, c'est pour ça que c'est très théorique, au centième de seconde où la main a fini sa propulsion du bras gauche, eh bien, c'est là exactement qu'on démarre la propulsion du bras droit. Et c'est exactement, c'est très rare, hein, puisqu'il y a beaucoup de dissymétrie, en particulier liée à la respiration, j'en ai parlé tout à l'heure, où la fin de la propulsion du bras droit se fait exactement au moment du début de la propulsion du bras gauche. Alors pourquoi ça s'appelle en opposition? Eh bien, ça s'appelle opposition de phase, parce que les deux bras se correspondent dans les phases propulsives et non pas dans les phases sous-marines ou aériennes. Ça veut dire que la prise d'appui va se faire pendant la phase de poussée, de sorte que quand je vais démarrer ma propulsion, je serai sur une phase de retour et pendant la poussée de l'autre bras, je serai sur la phase d'entrée dans l'eau et de prise d'appui. Donc, il n'y a aucun temps mort dans la relation propulsive. Si vous vous souvenez, ça c'est propulsif, et ça c'est propulsif. Eh bien, la première phase propulsive du bras gauche, puis la deuxième phase propulsive du bras droit, puis la deuxième phase propulsive, la deuxième phase propulsive, pardon, du bras gauche, se font en continuité, ce qui explique pourquoi on appelle ça l'opposition. Alors j'aurais du mal à vous présenter exactement des oppositions pures, parce qu'au centième de seconde, la correspondance des deux phases, c'est extrêmement rare, mais pour autant, c'est quantifiable. Alors, ici, regardez bien attentivement la position des mains entre la fin de la poussée d'une main et le début de la propulsion, pardon, le début de la phase de prise d'appui de l'autre. Eh bien, on voit de face et de profil. Là, pour l'instant, c'est une image arrêtée. Je vais vous montrer les images qui vont tourner à vitesse réelle et au ralenti de la même nageuse, ici Solène Figuès, qui a été championne du monde et médaillée olympique. Et donc, ici, on va voir qu'il y a une relation qu'on peut voir à l'image arrêtée entre ce que fait la main droite et ce que fait la main gauche de face et de profil. Ici, donc, on est sur ce qu'on appelle l'opposition de phase. Je vais vous le montrer plusieurs fois, à vitesse réelle. Évidemment, c'est au ralenti que c'est le plus intéressant. Et donc, regardez bien attentivement à l'œil nu. C'est assez difficile à voir. Et pour autant, maintenant que je vais vous le montrer, vous devriez pouvoir revenir. Si je vous montre des images tout à l'heure, vous devriez pouvoir reconnaître ce qui est de l'opposition, du rattrapé, ou est de la superposition sur une nageuse de ce niveau, par exemple. Alors, regardez au ralenti. Et ce que je voudrais vous faire apparaître, c'est le fait que, ici, regardez, l'entrée de la main se fait au moment où l'autre main est passage à l'épaule. Regardez que la fin de la poussée va se faire au moment de la prise d'appui, et que là, à la sortie de la main, l'autre a enchaîné les actions. Vous voyez le chrono qui tourne ici, à 2 centièmes de seconde près, avec ce dispositif. Eh bien, on peut mesurer l'écart qu'il peut y avoir entre une propulsion et une autre. Et ce qui est caractéristique sur une image arrêtée, c'est le fait que la main rentre dans l'eau au moment où l'autre est en position, tout simplement, de passage à l'épaule. Alors, comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, le roulis des épaules va être d'autant plus compromis par les phases de rattrapé ou les phases d'opposition ou les phases de superposition, dans la mesure où, comme vous le voyez, pour pouvoir pousser correctement, il faut que l'épaule soit très engagée sous l'eau, et en même temps, pour pouvoir ramener la main au-dessus, il faut que l'épaule soit dégagée. Il y a une incompatibilité à un moment donné, lorsque ces phases sont mal coordonnées. Alors, sur une image arrêtée, les caractéristiques sont là. Celle-là, elle est assez spectaculaire, à condition que vous regardiez l'écran, bien sûr. À condition que vous regardiez l'écran, merci. Voyez ici le démarrage de la prise d'appui et la fin de la propulsion du bras opposé. Donc la relation, et vous voyez le roulis des épaules extrêmement important, donc parce que maintenant, la phase propulsive doit engager l'épaule, et c'est ça sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans les vidéos de présentation. Et ici, vous voyez le dégagé de l'épaule une fois que la propulsion est terminée. Alors, deuxième modalité de coordination, le rattraper. Le rattraper, par définition, c'est qu'il y a des temps morts. On va voir dans la suite des diapositives que ces temps morts peuvent être totalement adaptés ou peuvent être totalement inadaptés selon le cas. Qu'est-ce que c'est qu'un temps mort ? Eh bien, c'est quand il y a tout simplement une absence de propulsion à l'intérieur d'un cycle. Et ici, la représentation graphique que vous avez vue tout à l'heure est la même, sauf que vous voyez que la durée de la propulsion est plus courte par rapport à la durée de la prise d'appui ou et du retour. Des fois, c'est le retour qui dure plus longtemps, des fois, la prise d'appui est plus courte, etc. Peu importe, on peut faire un modèle par personne, mais ici, c'est un modèle théorique. Eh bien, vous voyez que quand j'ai fini la propulsion du bras gauche, je n'ai pas encore démarré la propulsion du bras droit, et inversement, quand j'ai fini la propulsion du bras droit, je n'ai pas encore démarré la propulsion du bras gauche. Il y a donc un temps mort, et c'est pour ça qu'on appelle se rattraper. Alors, se rattraper, il est soit devant, okay, plus ou moins important. Certains parlent de rattraper ou de semi-rattraper selon la durée. Je préfère parler de rattraper, on verra qu'on peut le quantifier. Mais dans certains cas de figure, on a un rattrapé arrière. Par exemple, le comportement caractéristique du débutant crawl, c'est un rattrapé avant. Et le comportement caractéristique du débutant en dos, c'est un rattrapé arrière, pour des raisons tout simplement de maintien de l'équilibre. On y reviendra tout à l'heure. Donc se rattraper, je vous rappelle que les images que je vous ai présentées ici sont systématiquement de la même nageuse, dans le cadre des mêmes prises de vue, mais évidemment dans le cadre d'un protocole dans lequel je lui demande de nager à l'allure du 3000, ça n'existe pas mais c'est pas grave, à l'allure du 1500, à l'allure du 800, à l'allure du 400, du 200, du 100, du 50 et ensuite à vitesse maximale. Évidemment, dans ce cas-là, on ne fait qu'un 25 mètres, ou voire un 12 mètres 50. Eh bien, plus l'allure est lente, et plus une nageuse de haut niveau, et ce qui est le cas ici, je vous rappelle qu'elle est quand même vice-championne olympique médaille de bronze du 200 mètres aux Jeux Olympiques, et championne du monde du 200, donc sur cette épreuve de prédilection, et que, évidemment, elle a été championne du monde universitaire du 4x100, selon les allures, eh bien, vous voyez que là où la main rentrait dans l'eau tout à l'heure, au moment où l'autre était au passage à l'épaule, eh bien, vous voyez que les deux mains sont en avant des épaules. Donc, si vous voulez identifier un rattrapé, la modalité la plus simple sur un arrêt sur image ou tout simplement sur les vues que je vais vous montrer juste après, que ce soit un rattrapé de débutant ou un rattrapé d'expert, eh bien, c'est que les deux mains sont en avant du plan des épaules, à la différence de ce qu'on va voir tout à l'heure dans les autres modalités de nage. Alors, regardez, évidemment, comme par hasard, l'allure est plus lente, la fréquence est plus basse. Et on a, ici, la même nageuse que tout à l'heure, mais évidemment, dans le cas du protocole, eh bien, on est sur la problématique, tout simplement, d'une coordination en rattrapé, et on va le voir à vitesse ralentie après, pardon. Voilà, regardez à vitesse ralentie, et vous allez voir qu'à un moment donné, au moment où la main rentre dans l'eau, encore que là, on est encore sur un rattrapé que sur un bras, et pas tout le temps, en fonction des placements respiratoires. Là, juste avant, on était presque dans une logique. Voilà. Si je fais un arrêt sur image, vous voyez bien ici que les deux mains sont en avant du plan de l'épaule, cette main étant pas encore en phase de poussée, alors que cette main est en phase de recherche d'appui. Donc, les deux mains en avant de l'épaule correspondent à un rattrapé. Alors, voilà un rattrapé, évidemment, d'un autre niveau. Et c'est passionnant parce que vous avez deux nageuses qui nagent fondamentalement différentes, et merci Olivier pour ces images, et vous allez voir deux rattrapés qui sont le rattrapé du débutant, dans les deux cas, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Ceci étant, regardez, voilà, si vous faites un arrêt sur image ici, dire que c'est du crawl par rapport à la manière dont cette nageuse se déplace, mais vous voyez bien ici que les deux mains sont très largement en avant du plan de l'épaule. Dans ce cas-là, c'est une erreur, alors que dans le cas précédent, c'était une bonne option. Et regardez ici, ici, vous voyez également une autre forme de rattrapé qui n'est pas de même nature et on est dans cette problématique. Si on le regarde à vitesse lente, eh bien, on a ce rattrapé qui est quand même assez fabuleux. Bon, après, regardez la manière dont elle se propulse. Si je regarde le passage de la main à l'épaule, vous voyez, le bras, il est le coude en arrière, etc., etc., la tête relevée, battement de jambe. Enfin, voilà, là, il y a tellement de choses à dire. Mais pour revenir à la problématique du rattrapé, vous voyez bien qu'on est ici dans une logique de rattrapé et ici pareil. Donc, puisque dans les deux cas, vous voyez qu'il y a un temps mort à l'avant qui est tout simplement un appui pour pouvoir relever la tête pour respirer, pour s'équilibrer, etc., etc. Alors, les images que je vais vous présenter juste après, elles sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un nageur, Foster pour ne pas le citer, qui a été un des meilleurs nageurs du monde sur 50 mètres pendant sa période. Et ici, il est filmé dans un floume. Qu'est-ce que c'est qu'un floume ? Je reprendrai tout à l'heure, puisque les images d'Alain Bernard aussi seront sur un floume. C'est un bassin à courant d'eau. Vous voyez très bien ce que c'est qu'un tapis roulant. Eh bien, vous courez sur place, et puis il y a le tapis qui roule. Eh bien là, c'est un bassin à courant d'eau. Ça veut dire qu'on a de l'eau donc, qui se déplace, et le nageur, lui, est fixe. Et dans ce déplacement, on peut régler la vitesse du déplacement de l'eau. Un de nos docteurs, puisque maintenant il est docteur, a fait sa thèse en utilisant, on n'en a pas en France de floume, en utilisant le floume de Rome pour pouvoir justement faire des expérimentations dans ces conditions-là. Ici, regardez attentivement la coordination de ce nageur qui est pourtant un nageur de 50 mètres, mais lorsque l'eau se découle tout doucement, eh bien vous allez voir, regardez, que les contraintes sont relativement faibles, et dans ces conditions-là, vous voyez que là, on est typiquement dans la problématique du rattrapé. Cette problématique du rattrapé est donc totalement adaptée pour un nageur de haut niveau à partir du moment où il n'y a pas de contraintes. En d'autres termes, vous savez que l'énergie qu'on dépense à courir doucement est plus importante que l'énergie à marcher à une certaine vitesse. Par contre, quand on marche à une certaine vitesse, eh bien, quand la marche devient tellement énergivore que il vaut mieux courir, eh bien, on est dans cette problématique. Ici, on est dans la même condition, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'être en opposition, voire en superposition, lorsque la contrainte est faible, c'est-à-dire lorsque la vitesse de déplacement est faible. Alors, les correspondances ou les images arrêtées, eh bien, vous regardez au moment du début de la propulsion où est l'autre main. C'est ça qu'il faut regarder. Quand je débute ma propulsion, si mon autre main, elle est exactement à la fin de la poussée, on est en opposition. Si l'autre main est ailleurs, on est en rattrapé. Et on verra tout à l'heure que si les deux mains sont propulsives, on est en superposition. C'est justement ce qu'on va voir ici. Qu'est-ce que c'est ? Que la superposition. Eh bien, évidemment, puisqu'il y a quatre phases, deux phases non propulsives, une phase propulsive, pour qu'il y ait superposition, c'est-à-dire qu'il y ait une double propulsion des deux mains, il faut qu'il y ait une durée de la propulsion qui soit plus importante que la durée des phases non propulsives. Ce qui explique pourquoi, dans ce schéma, la propulsion, phase de traction et phase de poussée, dure plus longtemps que la phase de retour ou la phase de prise d'appui. Encore une fois, ça c'est un schéma. Ce schéma, vous allez le voir dans la représentation par rapport à la problématique tout simplement ce qu'on va voir chez les experts. Alors, ici, vous voyez que la main, au moment de l'entrée de la main, eh bien, cette main, alors ce n'est pas une très grande superposition, mais c'en est quand même une, ça veut dire qu'on a une double propulsion, puisque cette main commence à propulser, celle-là n'a pas encore fini, et on va le voir avec ces images. Et vous voyez ici, donc, qu'on est à des vitesses élevées, hein, donc là on est vraiment sur des vitesses maximales, par rapport à cette problématique. Dans ce cas-là, regardez que la propulsion d'une main va se faire à un moment donné. Là, vous voyez qu'il y a une double propulsion. Cette main est en train de finir sa poussée et celle-là a déjà démarré sa phase propulsive, même si dans ces images-là, ce n'est pas spectaculaire. Par contre, regardez là, et ça, s'il y a une image, et ce n'est pas du trucage, hein, c'est des images que j'ai reprises de photos sous-marines, c'est Michael Phelps, eh bien, quand vous regardez, là, il n'y a pas photo, vous voyez bien qu'il y a une main qui propulse, et l'autre est aussi propulsive. Alors, évidemment, ça ne s'additionne pas, mais l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est que pour pouvoir maintenir une vitesse élevée, il ne faut pas attendre d'avoir fini la propulsion précédente pour démarrer l'autre, et c'est ce qu'on appelle le chevauchement ou la superposition. Et dans cette superposition, je vais vous montrer donc la phase de prise d'appui et les phases de superposition chez Alain Bernard. Attention, les images ne sont pas de très très belle qualité, mais elles sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un flume qui va tout doucement, enfin qui va relativement vite au début, mais qui va extrêmement vite à la fin. Donc il y a beaucoup de bulles, on ne voit pas grand-chose, mais vous allez voir les différentes phases dans les images suivantes. Regardez. Alors ici, normalement, voilà. Vous pouvez voir sur ces images, ici, les différentes phases qu'on peut reconnaître de dessus ou de profil. Et on va voir que plus la vitesse de déroulement de l'eau, on voit hein, comme un tapis roulant ici, la vitesse de déroulement de l'eau est tellement importante à un moment donné qu'il ne peut plus continuer de nager dans les mêmes proportions que précédemment. Alors, on va y arriver. Voilà. Regardez maintenant en vue sous-marine. Si je fais un arrêt sur image, vous allez voir que, alors c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait que je fasse des ralentis, mais ici vous allez voir qu'il y a une double propulsion au fur et à mesure, et regardez la prise d'appui, l'importance de la prise d'appui chez un nageur expert, quand même champion olympique du 100 mètres, et cette prise d'appui est une phase extrêmement importante qui est absolument dégradée chez le non-expert. Alors, comment on va évaluer cette coordination? Eh bien, la méthode, je vais aller assez vite. La méthode, c'est tout simplement, dans un premier temps, de mettre deux caméras sous-marines. Aujourd'hui, on a des moyens beaucoup plus sophistiqués que ça, avec un chariot qui se déplace, avec des prises de vue de face, de profil, de dessus et de dessous. Et grâce à ça, eh bien, on est sur des procédures. Alors, pour vous montrer la procédure, je vous montre un petit reportage FR3. J'ai fait un extrait parce que c'est un reportage qui dure longtemps, mais j'ai fait juste une petite séquence pour vous montrer un peu la procédure.
On est bon, allez, c'est parti.
Bonjour, ici à la piscine du Grand Quevilly, prêté gracieusement à Didier Chollet, professeur des universités et directeur du Centre d'études et des transformations des activités physiques et sportives, CETAPS. On y modifie le comportement du nageur, on lui améliore sa technique au travers de nombreux tests que l'on enregistre sur cassette vidéo et sur laquelle ensuite on travaille en laboratoire à la faculté des sciences du sport de Montpellier.
On cherche d'abord à savoir si la technique est adéquate. Si elle est adéquate, bien évidemment, on ne change rien, mais c'est souvent qu'il y a quelques petites perfections à réaliser à partir de l'analyse du mouvement et du travail que nous menons. Ensuite, on fait une analyse sur Mont-Saint-Aignan, donc sur le centre universitaire, où là, nous faisons une analyse très très fine du mouvement des nageurs.
Ces données, vous les communiquez après aux entraîneurs?
Alors ces données sont commanditées, on va dire, par les entraîneurs, et bien évidemment, l'objectif étant de rapporter de l'information auprès des entraîneurs.
Il a un très gros potentiel. Sur le plan technique, nous, on ne fait que vérifier qu'il n'y a pas de dégradation. On sait qu'un nageur qui nage deux fois par jour d'une manière très importante a tendance à perdre un petit peu en sensibilité technique. Et donc, le but de notre étude, c'est de le suivre. On le suit déjà depuis 3 ans. De le suivre pour vérifier qu'il n'y ait pas de dégradation technique au fur et à mesure de son niveau d'entraînement.
En conclusion, le Havre du Bosc, où les Rouennais Bonnet et Gillot ont un potentiel pour devenir de très bons nageurs, ils en ont la capacité.
Alors, donc, ça permet de voir un peu la méthodologie. Et évidemment, cette méthodologie, elle date de bien antérieurement, puisque dans la revue Toute la Natation, il y avait un article consacré à Solène Figuès qui montre quand je lui demande de nager à l'allure du 3000, du 1500, du 800, du 400, du 200, du 100 et du 50, eh bien, il y a une augmentation de la fréquence, une diminution de la vitesse. Une augmentation, pardon, de la vitesse et une diminution de la distance par cycle. Et à partir de là, la coordination sur des allures lentes, vous voyez qu'entre la fin de la propulsion d'un bras et le début de la propulsion de l'autre, il y a vraiment un temps mort, donc on peut quantifier du rattrapé. Que dans des allures intermédiaires, eh bien, on va voir qu'ici, on est quasiment dans des phases d'opposition et qu'ici, on est toujours en opposition, mais vous voyez, sur un bras, il y a une superposition d'action, c'est-à-dire qu'il y a une double propulsion à certains moments. Alors, pour mesurer ça, c'est ce que je vous ai montré dans l'article tout à l'heure, j'ai créé un index. Cet index, c'est tout simplement une mesure à 2 centièmes de seconde près qui permet de quantifier à 2 centièmes de seconde près les différentes phases. Je vous remontre le schéma qui est ici. Lorsqu'il n'y a aucun écart entre la fin de la propulsion d'un bras et le début de l'autre, des deux côtés, donc on a un index sur un bras, un index sur l'autre en moyenne, et quand on a un index égal à 0, eh bien, on est en opposition de phase. Lorsque on a un rattrapé, on a un temps mort, l'index de coordination est inférieur à 1, il est donc négatif, et lorsque on a une superposition, eh bien, on a une double propulsion, et cette double propulsion est mesurée du côté droit et du côté gauche, et dans ce cas-là, la superposition montre que l'index est supérieur à 1, et on va le représenter dans l'espace à partir de ce modèle que je viens de vous montrer. Ici, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que Solène Figuès, avant les Jeux Olympiques, est venu régulièrement, donc à l'époque où j'étais à Montpellier, dans le cadre de ces protocoles. Et vous voyez qu'une année, elle était incapable d'être en superposition et elle était pratiquement dans les mêmes gammes de coordination, quelle que soit l'allure. Et donc, qu'elle nage à l'allure du 3000 plus vite 1500, plus vite 800, plus vite 400, elle était exactement dans les mêmes coordinations. Alors que l'année suivante, en travaillant avec son entraîneur, avec ses entraîneurs, justement ses coordinations, eh bien, elle a pu passer le cap de la superposition, et cette superposition, elle est extrêmement riche. Pour le dire d'une manière autre, un chanteur qui va être un ténor ou une chanteuse, qui va chanter à une certaine gamme, doit être capable de chanter plus bas et de chanter plus haut que ce qu'elle va représenter en concert. Eh bien, le nageur, pour pouvoir utiliser la gamme de coordination adéquate à sa vitesse de nage, doit être capable de nager dans des gammes plus basses et doit être capable de nager dans des gammes plus hautes. Et c'est le travail que je vais vous présenter maintenant. Alors, sur les études expérimentales, on a montré, par exemple, sur 43 nageurs, que, en moyenne, ça c'est la moyenne et ça c'est l'écart type, eh bien en moyenne et en écart type, vous voyez que à l'allure du 800, on est vraiment dans des index de coordination qui sont inférieurs à 0, négatif. À l'allure du 100 aussi, mais vous voyez qu'à l'allure du 50, on a, avec des écarts quand même, donc une coordination en opposition, en superposition. Vous voyez que les triathlètes qui vont à des vitesses plus lentes que les nageurs sont capables d'avoir des gammes de coordination qui évoluent, mais moins que des nageurs, surtout quand les nageurs sont à des vitesses plus élevées. Et à la même vitesse, c'est-à-dire ici à 1,50 m par seconde, vous voyez que c'est une vitesse élevée pour les triathlètes, une vitesse basse pour les nageurs, vous voyez que la coordination n'est pas du tout la même, ça dépend évidemment des caractéristiques. Il a été mesuré l'index à partir de combinaisons de triathlètes, des combinaisons qui améliorent la flottabilité, et l'amélioration de la flottabilité montre tout simplement que la coordination est plus économique avec donc une combinaison que sans combinaison. De la même manière, on a montré que quand on ne respire pas à des vitesses extrêmement élevées, eh bien la coordination est plus en superposition que lorsqu'on respire, ce qui montre bien que la respiration est un facteur qui augmente les temps morts. Alors, ces études montrent dans tous les cas de figure que plus la vitesse augmente, quelles que soient les conditions, triathlète, nageur, avec respiration, sans respiration, avec combinaison ou sans combinaison, c'est toujours une évolution de la coordination dans le sens d'une réduction des temps morts au fur et à mesure que la vitesse est de plus en plus élevée, vous voyez ici, à 1,80 m seconde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les experts et les non-experts qui sont confrontés à des allures très lentes, moyennes, etc., etc., eh bien, le non-expert, à partir du moment où on lui demande d'aller de plus en plus vite, n'est plus capable de maintenir sa coordination, c'est-à-dire quand on lui demande d'aller encore plus vite que ce qu'il faisait, eh bien, il dégrade sa coordination, alors que l'expert, lui, est capable de la réaliser dans de bonnes conditions. Et évidemment, quand vous regardez en fonction de la vitesse de nage, c'est encore plus caractéristique. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a trois bonnes coordinations. Une première bonne coordination en rattrapé, lorsque on privilégie les temps de glisse. Je rappelle que le temps de glisse, c'est un temps qui peut être inutile ou qui peut être utile. On va voir la semaine prochaine en brasse que la glisse, c'est quelque chose d'extrêmement important pour être économique et être efficace. La deuxième, donc la bonne coordination en rattrapé, c'est lorsqu'on privilégie le temps de glisse. Il y a une deuxième bonne coordination qui est celle de la continuité des actions propulsives et qui est donc la coordination en opposition, qui est donc une bonne coordination. Et la troisième bonne coordination suppose de ne pas attendre la fin d'un trajet propulsif d'un bras pour démarrer la propulsion de l'autre bras. Évidemment, ça dépense une énergie extrêmement importante, mais pour aller sur des vitesses extrêmement élevées, par exemple la vitesse du 50, eh bien, on est dans ces problématiques tout simplement de superposition. Il y a donc trois bonnes coordinations, mais ces coordinations dépendent des caractéristiques morphologiques, des caractéristiques genrées, selon qu'on glisse bien comme une fille ou moins bien comme un garçon, eh bien, vous voyez bien que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et évidemment, l'allure, c'est-à-dire la vitesse de nage. L'index de coordination, qui est un outil, permet tout simplement de quantifier ces différents éléments. Alors, très rapidement, la coordination en dos, eh bien, on est dans la même problématique de la coordination en dos. Si on reprend très rapidement la technique du dos, eh bien, on a un roulis encore plus important des épaules, et je vais vous le montrer dans le cadre des images que je vais vous présenter juste après. Ce qui est très important dans la modalité de coordination en dos, c'est que, alors que le crawler, quand il a fini sa propulsion, sa main, la phase de dégagé est quasiment en surface, le bon nageur de dos, eh bien, lui, sa phase de propulsion se termine très profondément, et donc entre la main qui est très profonde et la surface de l'eau, eh bien, cette phase de dégagé est beaucoup plus importante, ce qui fait que dans la quantification de l'index de coordination, il y a une phase qui a été rajoutée, qui est cette phase de dégagé, qui montre tout simplement que la coordination du dosiste n'est pas du tout la coordination du crawler. Il n'existe pas d'opposition de phase, il n'existe pas de superposition d'action en dos, parce que autant je peux mettre mes deux épaules en avant dans tous les plans de l'espace, autant sur le dos, je ne suis pas capable de mettre mes deux épaules donc en situation tout simplement propulsive. Regardez les images. Au début, à vitesse normale, puis à vitesse ralentie, de celui qui a été également médaillé international en dos, qui était Simon Dufour. Hein, donc c'est des images qui datent un peu, mais qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes. Regardez, en particulier ici, la phase de poussée. Regardez à quelle profondeur elle se termine. Puis, le dégagé de l'épaule et l'engagement de l'autre épaule, le roulis, est extrêmement important en dos, encore plus important qu'en crawl, c'est pas peu dire. Et vous voyez ici au ralenti, donc on ne peut pas avoir deux phases propulsives en même temps, puisque cette phase, c'est une phase de dégagé. On va le reprendre à vitesse normale et à vitesse ralentie. En dos, vous voyez bien qu'il n'est pas possible de superposer les actions. Il n'est même pas possible d'opposer les actions. On est obligatoirement dans du rattrapé. Mais évidemment, cette modalité de rattrapé est à minimiser par rapport au temps mort. Voyez ici, il n'y a pas de temps mort à la fin du dégagé de la partie à la cuisse. Alors que si je vous montre des comportements débutants, ce qu'on va voir juste après, eh bien on va voir que ces temps morts à la cuisse sont extrêmement importants. Vous voyez que ici, si on est propulsif avec un bras, on ne l'est pas avec l'autre, et on est donc bien dans cette problématique. Dans le cadre de l'évaluation d'un autre index de coordination en dos, eh bien, le protocole est le même, hein, image vue sous-marine de face et de profil, intégration du timer pour mesurer le temps au centième de seconde près, une validation internationale sur un article qui a été publié ici en 2008 pour tout simplement quantifier cette coordination, et les résultats expérimentaux en fonction des caractéristiques des nageurs. Et vous voyez que toutes les allures qui vont de plus en plus vite sont toutes en rattrapé, puisqu'elles sont inférieures à la logique de l'opposition. Pour terminer, le laboratoire CETAPS de Rouen est spécialisé, entre autres, sur l'analyse des coordinations en natation, et chacun de ces articles qui est présenté ici est un article à impact factor, c'est-à-dire qui est reconnu par la communauté internationale et disponible donc comme tout simplement des travaux de recherche publiés au niveau international. Et donc je vais arriver maintenant à la fin de cette première partie. Et on va, après une petite pause, donc aborder la problématique des applications et des interventions dans le cadre tout simplement de la coordination des nages alternés.